RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Vous nous rejoignez au 32-16 pour toutes nos discussions, tous nos débats avec aujourd'hui Zora Bitan, avec Sandrine Pégan et avec Antoine Dirce. C'est la deuxième heure des Grandes Gueules. Deuxième heure des Grandes Gueules au cours de laquelle on parlera de ce qui se passe dans un quartier de Vénissieux. Intéressant de regarder Vénissieux, du quartier Joliot-Curie, où la Poste a suspendu la distribution du courrier à cause de l'insécurité. Alors il doit y avoir une réunion d'ailleurs aujourd'hui. Il doit y avoir une réunion avec la municipalité, avec les représentants de la Poste et représentants du quartier pour essayer de trouver une solution. Bah, vous habitez ce quartier Joliot-Curie du côté de Vénissieux. Vous venez en discuter avec les GG, avec les grandes gueules. En attendant, on va s'intéresser aux banquets du canon français. Les banquets du canon français sont des banquets géants, des gueuletons au cours desquels on chante.
Rien que le nom, on a peur.
On partage la bonne chère. C'est connu. Oui, la cochonnerie.
Boire un canon, c'est sauver un million.
Tout ce qui est franchouillard. Mais ils sont dans la ligne de mire d'une partie de la gauche et de l'extrême gauche parce que, paraît-il, ils sont des repères de l'extrême droite, repères même de néo-nazis, et ils veulent donc leur interdiction.
Il y a peut-être des plans
aussi. Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer les oies sauvages.
Voilà, ça, ce sont de vraies
belles
paroles.
La Méditerranée.
Quelle année,
Olivier? Ah, bah ça, c'est
73.
Je dirais ça, 72, 73.
Non, 73.
Michel Delpech.
Merci
magnifique.
Pour l'oreillette. Hein.
Il a fait des très jolies chansons, Michel Delpech, qui tiennent la route. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, du réécoute du Michel Delpech, la mélodie, il y avait un vrai travail sur l'écriture et voilà. C'est tout à fait actuel.
Mais il joue aussi.
Et d'ailleurs,
y a
les nouvelles générations. Moi, j'ai des enfants qui peuvent écouter Michel Delpech. Ouais.
74.
74,
le chasseur.
J'avais 6 ans.
Alors, parlons de ces immenses banquets des bons vivants. Banquets qui valorisent les plats du terroir, qui valorisent la France, sont les banquets du canon français.
Oui, alors il y en a un qui est organisé ce samedi, c'est un grand banquet au parc des expositions de Caen, en Normandie. Et il y a une pétition qui a été lancée, relayée par une députée européenne, Emma Fourreau, qui sera avec nous dans un instant, pour essayer de faire annuler l'événement. Pourquoi alors les canons français? Alors, le canon français, c'est une société événementielle qui organise un peu partout en France ce type d'événement. Donc, ce sont des jeunes en général qui se rassemblent. Ils sont nombreux, hein, des centaines de jeunes qui sont en béret et en marinière et qui sont là pour manger c'est des banquets bon vivant, hein, donc c'est de la grosse bouffe, ça boit et ça chante, donc là c'est Michel Sardou à fond la caisse, Michel Delpech, etc.
C'est la France, quoi.
On peut trouver ça bouffe, franchouillard, ringard, mais la députée insoumise, elle va nous l'expliquer, elle va plus loin, elle trouve ça raciste, identitaire, masculiniste, parce que essentiellement ce sont des hommes, alors qu'il y a quand même des femmes qui participent, et il faut faire interdire ces rassemblements qui seraient en fait des rassemblements d'extrême droite.
On peut interdire la France aussi.
Alors c'est oui, alors c'est
et c'est ça la République, hein. Et c'est ça la République, hein, franchement.
Ça te choque?
Ah mais moi je suis mort de rire. C'est-à-dire qu'au Bourget, salon des musulmans de France avec des bouquins absolument immondes qui se sont vendus avec des théories totalement anti-républicaines. Il n'y a pas un LFI qui a bougé, rien du tout. Là, tu manges. C'est-à-dire que t'es en France. T'as une tradition, t'as une culture, t'as une identité, t'as un art de vivre, t'as la gastronomie, t'as le vin. Et ils ont réussi. T'as le béret, t'as la baguette. Ils ont réussi. C'est-à-dire qu'en passant par la Marseillaise, le drapeau, le mot république, les phrases, tout ça est devenu nazi.
Mais pourquoi ça marche, ces banquets? C'est intéressant.
Mais parce qu'on aime le pays.
Voilà. Non,
Les gens sont contents de se rassembler.
Ils y vont par groupe de potes et ils vont rencontrer d'autres gens qui aiment faire la fête comme ils font la fête.
Ils vont
communier ensemble. Et donc, en fait, c'est ce que notre époque a perdu, c'est la capacité à sympathiser avec la table d'à côté, à passer une bonne soirée avec des gens que tu connaissais pas juste avant. Et ils participent à recréer ça. Et je ne comprends pas comment quelqu'un puisse être contre ça. C'est juste de la convivialité.
Alors, justement,
dans une époque qui en manque tellement.
Emma Fourreau est avec nous, députée européenne. Bonjour, Madame Fourreau.
Bonjour.
Alors, expliquez-nous ce que vous reprochez précisément aux banquiers du canon français, alors.
Alors, on comprend très bien que le récit bien présenté puisse donner envie à certaines personnes. La réalité, c'est que derrière, c'est une manœuvre de l'extrême droite et c'est très simple à comprendre parce qu'on a Pierre-Édouard Sterrin qui avoue mettre des millions d'euros dans la bataille culturelle et la conquête du pouvoir par l'extrême droite qui finance ce banquet français. Donc, on sait bien que c'est pas de la charité et que c'est bien pour véhiculer un agenda politique raciste, mais surtout, on s'appuie sur les événements précédents. C'est qu'il y a eu des débordements à chaque banquet avec des saluts nazis, avec des croix affiliées à l'idéologie néo-nazie, avec des débordements dénoncés par les riverains. Donc on s'appuie sur les faits et donc on voit bien sûr que parmi les convives, il y a des personnes qui viennent pour manger. Après, on rappelle quand même que le repas, c'est 80 euros par personne, donc il n'y a rien de populaire dans ce banquet. Et on voit bien que c'est pour normaliser la présence de l'extrême droite, pour normaliser...
Oui, mais pardon, mais Monsieur Sterrin, vous le qualifiez d'extrême droite, c'est un milliardaire, il a le droit d'exister. On est dans un pays de liberté d'opinion. C'est ça que je comprends pas. On ne peut détester le canon et ne pas y aller, mais de là à vouloir l'interdire, est-ce que c'est liberticide, non ?
Je prends l'exemple de Caen, puisque ce banquet va se tenir à Caen. Le préfet a notamment décidé l'interdiction du spectacle de Dieudonné. Donc ce sont des mesures qui se prennent lorsque...
Quel est le rapport avec ça ?
En plus, il y a déjà eu des précédents pour Dieudonné.
Quel est le rapport avec Dieudonné qui a été condamné pour antisémitisme ?
Donc quand il y a des débordements avérés, quand il y a une menace sur l'ordre public, on peut prendre ce genre de décision. Et nous, on argumente...
C'est des gens qui sont menaçants ?
Mais bien sûr, on vous l'a dit, sur les précédents...
En chantant du Michel Sardou ?
Je peux poser une question à Mme Fourreau.
Attendez que Mme Fourreau finisse son argumentaire. Allez-y, pardon.
Oui, il y a eu des précédentes éditions à Rennes, à Angers notamment, où les débordements ont été constatés, où il y a des vidéos de ces banquets.
Il y a eu des plaintes ? Il y a eu des condamnations ?
C'est en cours. Mais les vidéos existent.
Alors j'ai une question moi. La semaine dernière ou il y a 15 jours, il y a eu un rassemblement au Bourget, un rassemblement de citoyens musulmans. Et dedans ce rassemblement, il y a eu des livres qui ont été dénoncés parce qu'ils véhiculent des propos absolument contraires et opposés à nos valeurs, homophobes, antisémites, racistes, en pagaille. Des livres qui sont régulièrement vendus à droite et à gauche. Madame Fourreau, je ne vous ai pas entendu vous indigner. Et d'autre part, la culture et l'identité française, il faut savoir faire le tri. L'extrême droite a toujours existé en France, le FN a toujours existé, et transformer systématiquement l'identité française en nazie, complotiste, extrême droite, parce que quelques individus pénètrent dans ces fêtes pour faire ce qu'ils ont à faire du point de vue politique, c'est fort de café. Le problème, c'est que vous marchez pas sur vos deux jambes. Le problème, c'est que vos dénonciations sont toujours à géométrie variable. En fait, on a vraiment l'impression... Et c'est une fille d'immigré algérien qui vous le dit, née ici dans les années 60. Ce pays, je l'aime et j'en ai marre qu'il se fasse fracasser par des gens qui doivent nous demander
Emma Fourreau.
Où est-ce qu'on doit aller ou pas aller. On sait où est l'extrême droite, on sait où elle est, on sait comment elle est, on sait comment elle fonctionne. On n'a pas besoin de LFI pour nous expliquer où est le raciste et où est le racisme et où il n'est pas. Donc là, moi, cette fête franchouillarde, elle me parle parce que c'est mon pays. Donc il faut arrêter d'exagérer.
Et
j'aimerais bien vous entendre sur le Bourget, sur tous ces bouquins qui ont été vendus. Et la liste, elle est longue.
Alors, oui, réponse à Zora.
L'extrême droite, on sait où elle est. Elle est notamment dans ce banquet du canon français, puisque pas plus tard qu'il y a quelques jours, il y a une personne qui s'est introduite dans ma permanence parlementaire pour défendre le banquet et y faire 4 saluts nazis, d'accord ? Donc on n'est pas en train d'inventer des choses, c'est extrêmement factuel. Et y compris tous les messages que je reçois et toutes les réactions politiques que je vois viennent toujours de l'extrême droite. C'est le RN, c'est Frontières. Ce sont des personnes qui vont me dire, par exemple, que je suis culturellement du côté de l'envahisseur. C'est ça les messages que je reçois pour défendre ce fameux banquet qui serait apolitique.
Vous n'avez pas répondu sur le Bourget ?
Mais nous condamnons absolument que ce soit l'antisémitisme,
le
racisme, la misogynie. Écoutez, moi, là, je suis députée à Caen et c'est pour ça que je réagis sur le banquet du canon français. Je n'ai pas suivi ce rassemblement du Bourget, mais je pourrais m'y pencher.
Bon, renseignez-vous un peu aussi.
Oui.
Mais je vous l'ai dit. Toutes les formes de racisme sont à condamner, et donc vous êtes dans une forme de géométrie variable.
Il va y avoir...
à fermer les yeux sur ce qui se passe sur ce banquet.
Et Emma Fourreau, si j'ai bien vu, il va y avoir une espèce de contre-banquet aux côtés du canon républicain, c'est ça ? Il va y avoir un rassemblement ?
Bien sûr, parce que le message que nous portons, ce n'est pas que la fête est finie, qu'il faut arrêter de manger ensemble. La convivialité, c'est... justement le vivre ensemble, et c'est ce qu'on va faire le matin en face de ce fameux banquet, parce que nous on ne s'attaque pas à la gastronomie, à ses valeurs. On est en train
Qu'est-ce
de dire
que vous allez manger
mais de tout, en fait. Chacun peut venir avec ce qu'il veut. Nous, on n'a pas une idée prédéfinie de
d'accord.
ce que
ah serait... Vous devriez tous manger ensemble, alors, ça serait mieux.
Ouais.
Enfin, je note quand même que des idées nauséabondes qui circulent dans certains couloirs, vous ne vous dérangent pas. Là, vous n'êtes pas du tout mobilisé. D'ailleurs, alors, vous n'avez même pas
Pégan
débatté.
Pas
et le contraire, alors, par contre, là, vous êtes sur le pied.
Maître Pégan.
Madame Fourreau, bonjour. Je suis avocat. Et moi, bon, figurez-vous, je suis très attachée quand même aux prérogatives des élus de la République. Et qu'un élu de la République relaie ça, pour moi, ça me choque. Vous devez normalement garantir les libertés. Et en fait, j'ai l'impression tout simplement que c'est votre nouvelle méthode. C'est-à-dire que si ça ne vous plaît pas politiquement, eh bien, vous essayer de faire interdire. Et pour moi, c'est pas de la République, c'est une espèce de police de la pensée. Et j'en ai un peu marre de cette minorité qui veut décider de ce que les gens ont le droit de faire ou de pas faire. En plus, vous balancez des accusations qui sont gravissimes, le nazisme, sur le racisme. Mais attendez, soit c'est vrai, et dans ces cas-là, vous saisissez la justice, et soit ça ne l'est pas, et c'est juste pour de la saleté, pour faire annuler un événement. Vous avez parlé de plaintes que soi-disant c'était en cours, mais comme par hasard, il n'y a pas de condamnation derrière, parce que peut-être que justement il n'y a pas de plainte, et que c'est encore une fois des choses que vous balancez comme ça.
Alors sur les saluts nazis réalisés dans ma permanence parlementaire, il y a une enquête de police qui est en cours. Avec,
oui, il y a une enquête. C'est une dame. Oui, c'est une...
Là, c'est pas le canon français.
Voilà, c'est pas
le
canon. Voilà,
c'est une femme. C'est une femme de 71 ans qui est entrée dans votre permanence et qui voilà. aurait fait des saluts nazis.
Rien à voir. Voilà, c'est ce que je dis. C'est soit on saisit la justice et c'est vrai, et il y a une enquête et il y a une condamnation, et du coup, ça crée un précédent, comme pour les spectacles de Dieudonné. Soit alors il y a rien et c'est que de la saleté, et c'est ça qui me dérange chez vous.
Allez-y, vous pouvez répondre.
Oui, vous faites le procès avant même qu'il y ait
lieu.
Mais encore une fois, on s'appuie sur les précédents où des riverains ont dénoncé des menaces, des intimidations, des débordements, y compris à Caen, on a un climat.
Il n'y a pas de condamnation.
On a un climat où l'extrême droite prend ses aises et s'en prend notamment à un bar associatif en s'attaquant.
Ça doit être condamné,
avec voilà. Bien sûr, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que nous alertons.
Mais pardon, mais les images qu'on voit, pardon, madame la députée, du canon français, moi, j'ai jamais participé à ce genre de choses, mais enfin, je vois des gens qui chantent, dansent, boivent, rigolent ensemble. Sincèrement, c'est très loin de ce que vous nous racontez. Vous avez l'impression que vous nous racontez que c'est un repère de nazis et que ils sont aux portes du pouvoir, en buvant des coups. Enfin, je trouve qu'il y a un amalgame qui est fait et c'est assez quand même intolérant d'une manière générale. C'est comme si on disait, moi, la fête de l'humanité, je voudrais que ça soit interdit parce que c'est des gens qui veulent le retour du communisme. Enfin voilà, on est quand même dans un pays de liberté, il faut défendre ses libertés. Et moi, ça m'inquiète parce que vous êtes une élue et vous finalement, vous avez quand même des propos assez liberticides. Il faut défendre la liberté, le pluralisme. On n'est pas d'accord.
S'il y a des débordements,
non, mais le racisme, vous ne l'avez pas démontré dans ce que vous dites. Chanter du Michel Sardou, c'est pas raciste. Boire des coups.
Si, bien sûr.
Chanter du Michel Sardou, c'est pas raciste.
Dans leur esprit, oui,
ça l'est.
Ce
que vous racontez, c'est pas démontré.
Madame,
vous arrivez à le démontrer, s'il y a des plaintes, etc., il faut les condamner, bien entendu. Mais là, ce que vous nous racontez, c'est qu'en général, ça vous gêne parce que c'est Sterrin qui finance et qui est
et
un milliardaire. Qui est un milliardaire qui n'est pas de votre bord, mais enfin, il a le droit d'avoir ses idées. Voilà. Et parce que les gens sont un peu franchouillards, c'est ça qui vous gêne.
Mais, allez-y, répondez, Madame Faux.
Lors du banquet à Angers en 2024, il y a eu quand même « À mort les bougnoules » qui a été prononcé. Donc je suis désolée, mais ce ne sont pas...
Eh bien, c'est condamnable. C'est condamnable.
Fois, bien sûr.
Donc il faut tout fermer.
Pierre-Édouard Sterrin, ce n'est pas innocent s'il finance ce banquet.
Et Soros, c'est qui ? Soros qui finançait toute l'extrême gauche, les wokistes, les racialistes, les indigénistes, avec Adama Traoré, lui, c'est pareil. Et pourtant, on dit rien. Voilà, c'est pareil. Il y a d'autres financeurs ailleurs de votre bord que vous ne citez jamais. C'est-à-dire que le comble, c'est quand
Mais je ne mettrai jamais dos à dos l'extrême gauche et l'extrême droite, bien évidemment.
Ah, si, nous on la met. Moi je la mets.
Toi, tu la mets.
Moi je la mets, moi, et j'assume totalement. C'est pareil. Pour moi, vous êtes les mêmes, vous vous auto-alimentez.
Ah, bah oui. Entre
pour moi, je l'assume totalement.
C'est la fin des racines.
Non seulement je l'assume, mais en plus j'assume totalement d'être qualifié de facho, d'extrême droite, de nazi. Ah bon je m'en tape, voilà. Mais comme de l'an 40.
Merci,
voilà.
Vous appuyez mes propos.
On tamponne le coquillard.
Non, mais parce que c'est vous qui qualifiez les gens en permanence, et cette qualification, elle a totalement disqualifié les valeurs essentielles de ce pays. On sait, les gens ne savent plus où ils habitent. Oui. Maintenant, n'importe qui, dans un dîner, défend des valeurs, il devient nazi, Ku Klux Klan et compagnie. Alors que vous fermez les yeux sur un million de choses. Donc, moi, je défends ce pays, ses valeurs, sa République. politique, son art de vivre, sa gastronomie, etc. Et quand je suis au milieu des Français, il n'y a pas un facho derrière chaque Français. Ça, c'est totalement faux. Parce que quand je vais dans une cité, je me mange de l'antisémitisme et là, j'ai pas l'extrême gauche qui vient à mon secours. D'accord ? Donc, on va arrêter de pourrir le pays. On va s'occuper réellement des racistes pour de vrai. On va s'occuper des antisémites pour de vrai. Et on va arrêter de fabriquer des fachos là où il n'y en a pas. C'est bon. On va arrêter parce que ça commence à bien faire. Vous pourrissez totalement le vivre ensemble. Vous le bâtissez pas,
là,
vous le pourrissez.
Là, ce sur quoi attire l'attention Emma Fouron, c'est de dire que dans ces banquets viennent se greffer des néonazis. Il faudra voir. Les organisateurs du banquet eux-mêmes disent, si jamais on le constate, si jamais ça se produit, on les mettra dehors et ils seront exclus. C'est ce qu'ils vous répondent, Madame Fouron.
Madame parlait tout à l'heure du vivre ensemble à travers ce banquet. Il faut quand même rappeler que ce banquet, c'est 80 euros par personne, donc ça n'a rien de populaire. On voit que c'est caricature.
La fête de l'humain, c'est combien ?
C'est pas 80 euros, madame. C'est beaucoup moins cher.
Parce que c'est subventionné. Parce que les subventions publiques, c'est pour ça.
Voilà, merci.
Oui, et là, c'est subventionné par monsieur Sterrin. Mais
c'est privé.
C'est ça.
Il fait ce qu'il veut de son argent.
C'est quand même dingue.
C'est dingue.
C'est qu'il y a un récit qui est fabriqué autour de ce banquet qui est totalement monté de toutes pièces dans la mesure où.
Mais c'est vous qui le créez, ce récit.
Parce
qu'il
vous convient pas. Mais en fait, c'est parce que c'est pas vos idées. Mais il faut quand même, à un moment donné, accepter que des gens pensent différemment que vous, simplement. C'est ça, la démocratie.
La tolérance.
Voilà. vous allez pas au Canon français, très bien. Peut-être que les participants de Canon français n'iront pas à la fête de l'humain.
Voilà.
Et c'est comme ça. Et c'est ce pays qu'on aime. C'est parce que justement, il y a du pluralisme. C'est vous voulez tout interdire.
Le racisme ne fait pas partie.
On parle de gens qui chantent et qui dansent.
Si au milieu il y a des gens qui dérapent, ils seront exclus.
On les sort.
Mais ce sont des dérapages organisés.
Ah bon, organisé, faut le démonter.
Emma Fouron, dans tous les cas, c'était pas
simple. Non, mais ces gens-là, ils voulaient.
Zora, deux secondes. C'était pas simple pour vous. Je vous remercie d'avoir été en direct avec nous, d'expliquer pourquoi vous avez demandé l'interdiction du Canon français, des banquets. Dans un instant, on sera dans le Lot-et-Garonne avec Jean-Sébastien. Il est inscrit sur l'un de ces banquets, justement. Et puis, on sera avec Céline qui, elle, y a participé. Alors, est-ce qu'elle y a vu des débordements ou pas? On verra avec elle les interdictions, les demandes d'interdiction des banquets du Canon français. Vous venez en discuter avec nous au 32-16, il est 10h20.
RMC, 9h, midi, les Grandes Gueules. RMC,
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les Grandes Gueules.
On va reparler des banquets du Canon français, ces banquets qui réunissent le nombre de banquets qu'ils ont organisés a au total rassemblé 100 000 personnes. Quand même, là, il y en a un ce week-end à Caen et la France insoumise, l'élu de Caen, Emma Fouron, que vous avez entendu, la députée européenne, demande son interdiction en disant ça véhicule des valeurs fascistes, il y a des néo-nazis, des racistes qui sont présents. C'est pour ça qu'elle demande son interdiction. Donc on a Jean-Sébastien qui est avec nous du côté du Lot-et-Garonne. Bonjour Jean-Sébastien.
Oui, bonjour. Bonjour à toute l'équipe.
Alors, est-ce que c'est un banquet où il y a des dérives ou pas ?
Non, mais en fait, c'est complètement hallucinant ce qu'on entend. Et moi, pour ma propre expérience, je me suis inscrit sur un banquet pour le 6 juin prochain à Villefeuille-en-Sac. Donc, c'est pas le Canon français, c'est un autre groupe, mais qui est sur la même ligne, sur un grand repas, un grand banquet. Et nous, on y va très clairement. C'est pour passer un super moment de convivialité avec des gens qu'on ne connaît pas, qui viennent d'un peu partout, hein, pas que du côté régional. Des fois, c'est même national. On arrive à la bonne ripaille. En fait, on vient passer un bon moment. Tout le monde vient pour la même chose. Ah, c'est sûr qu'après, il n'y a pas de racaille. Hein. Généralement, c'est que des gens qui sont là pour la même envie, passer un très bon moment. Ça dure de midi jusqu'à minuit.
Et vous avez jamais entendu déraper quand il y a un peu de viande saoule à la fin, non, ça se passe bien.
Mais après, vous savez, quand il y a ce genre d'activité, généralement, quand on fait les fêtes de Bayonne ou de Mont-de-Marsan, on se retrouve aussi avec de la viande saoule en fin de journée ou même en début de soirée. Ils sont gérés par les policiers locaux ou par les amis ou la famille. Ça arrive, bien sûr. Je vais pas dire qu'il n'y a pas de débordement, mais ce sont des débordements parce que les gens abusent de l'alcool. Mais après, il n'y a pas de signe, on va dire, politique, néo-nazi ou quoi que ce soit.
Justement, je voulais vous poser la question, à quel moment vous mettez votre uniforme de nazi ?
À quel moment de les bonnes la soirée non, plutôt
ça,
matin
ça c'est après minuit quand on a la puce en décodé.
Mais Jean-Sébastien, on a Céline qui est juriste, qui est en Haute-Savoie. Bonjour Céline.
Oui, bonjour les GG.
Vous avez participé à un banquet du canon alors?
Oui, tout à fait. Le 17 janvier dernier à La Roche-sur-Foron, donc c'est organisé par le canon français. Alors, je suis vent debout et je suis très énervée parce que j'ai l'impression d'être insultée par ces députés. C'est voilà. Une honte. C'est
pourquoi une honte. Énervée comme pourquoi Zora.
Voilà. Alors, j'avais été traité de raciste.
J'avais pas de marinière, j'avais pas de béret sur la tête, j'avais pas 4 grammes dans le sang parce que c'est moi qui conduisais. moi, tout ce que j'ai pu constater en attendant de rentrer à l'intérieur des locaux, c'est que c'était des gens qui venaient de tous horizons, comme l'a dit l'auditeur précédent, qui venaient pour s'amuser, énormément de jeunes, mais aussi d'origines culturelles différentes. C'est pas les Ariens qui sont sortis, hein, faut arrêter. Alors je caricature, mais à dessein.
Oui, je comprends. Oui, puisque,
et
ouais.
Par contre,
oui, parce que on a quasiment dit que c'était presque un rassemblement de nazis,
oui,
de néo-nazis.
Oui. Quoi. Alors, c'est gravissime ces accusations. Que ces députés se permettent de m'insulter de la sorte, de me faire passer pour une nazie, une raciste et une extrémiste, mais elle a pas honte de s'exprimer de la sorte.
Est-ce que vous avez entendu des débordements vous dans le rassemblement?
Du tout. Alors après, on n'est pas parti à minuit, nous on est parti, il devait être 19h.
Oui.
Donc on est arrivé, on a fait midi 19h, et je n'ai pas vu un débordement, et autour de moi, je n'ai pas entendu un propos raciste.
Mais Céline, mais attendez, je vais pousser un petit peu plus loin. Est-ce que ce rassemblement, c'est que des gens qui pensent à droite, ou au Rassemblement National, ou LR?
Et alors
Non, mais je pose la question, Céline, parce que c'est aussi ce qu'on reproche. Quoi. Est-ce que c'est ça ou pas, Céline?
On a quand même le droit d'être de droite en France.
On a le droit de se rassembler entre nous.
Allez-y, Céline.
Moi, à titre personnel, je vais devenir une espèce en voie de disparition, parce que je suis encore encartée chez LR. Mais je m'estime pas d'extrême droite.
Non, on va vous mettre dans un musée. Je pense exactement comme Céline.
Non mais Céline, c'est quand même dingue.
Pourtant, moi, j'ai pas l'impression en me rendant à un repas que ce soit un acte de résistance ou que ce soit un acte militant.
Pour faire la fête, bien sûr.
Et moi, j'ai toujours fait la fête comme ça depuis des années avec mes copains. On boit du vin, on mange un truc sympa. Et paradoxalement, on est effectivement tous de droite. Si on aime faire la fête comme ça, c'est qu'on est plutôt de droite. Mais quelqu'un de gauche qui viendrait et qui accepterait de passer un moment convivial serait très bien accueilli. On parle pas politique, mais on parle juste bonne bouffe, marrant, on rigole, etc. Et on demande la carte de personne quand on fait ce type
là,
de soirée.
Là, c'est à l'avocate que je demanderais sur quelle base il pourrait faire interdire le rassemblement, justement.
Trouble à l'ordre public.
Oui, trouble à l'ordre public.
Comment tu le qualifies, comment tu le prouves, le trouble à l'ordre public?
Alors après, j'imagine qu'il faudrait des captures de vidéos, tu vois, tu es là avec ton téléphone, voilà, pour montrer qu'il y a des débordements et qu'il y a des menaces ou des critiques par rapport au racisme.
Dans d'autres rassemblements, il y aurait eu des saluts nazis ou des racistes, c'est ça?
S'il y a trop de chansons de Michel Sardou qui s'enchaînent, là, tu peux commencer à intervenir.
Tu peux te servir de ce qui s'est passé éventuellement dans des banquets précédents pour demander l'interdiction.
Oui, c'est ça. Non, en fait, à partir du moment où tu vas apporter un dossier, des éléments qui viennent prouver, corroborer ce que tu avances comme possibilité d'infraction, dans ces cas-là, oui,
Est-ce qu'on pourrait interdire toutes les manifs de gauche? Parce qu'à chaque fois, il y a des casseurs qui viennent casser les trucs, etc. À chaque fois, ça se passe mal. Pour autant, on n'interdit pas. Et là, il ne se passe rien et ils veulent interdire.
Céline, du coup, vous allez continuer de les faire, ces banquets, d'y aller?
Bah écoutez, moi j'y suis allée par curiosité parce que je connaissais pas, en toute sincérité. Alors par contre, effectivement, d'en faire un dans un autre endroit en France afin de découvrir aussi la gastronomie locale d'un autre coin de France qu'on ne connaît pas forcément, pourquoi pas.
Mais Céline, je vous remercie d'avoir été avec nous. Bonne journée du côté de la Haute-Savoie. À bientôt.
Merci,
on a Ali qui veut réagir, qui nous appelle de la Loire. Bonjour Ali.
Salut les GG,
Vous voulez réagir pourquoi, mon cher Ali? Dites-moi.
Parce que je suis fatigué qu'à chaque fois qu'il y a une réunion, qu'il y a une manifestation, on est là à regarder. Là, le problème qui leur pose problème, c'est que c'est une réunion, il va y avoir que des blancs, et que pour eux, donc, automatiquement, c'est des racistes. Même si c'était une réunion du Ku Klux Klan, laissez les gens faire ce qu'ils veulent, en fait. Ils vont juste bouffer.
Peut-être la réunion du Ku Klux Klan, peut-être pas quand même.
Non, mais oui, il faut peut-être pas exagérer.
Allez-y.
Mais ce que je veux dire par là, en fait, à chaque réunion, on va aller regarder le moindre petit détail. J'ai entendu tout à l'heure Zora qui parlait de la réunion qu'il y a eu au Bourget. Les livres qui sont vendus, vous pensez vraiment que les gens étaient regardés ce qui était dans ce livre? Eux, ils sont partis dans l'idée de se retrouver, partager de leur culture. En fait, on s'en fout de tout ça. On passe plus notre temps à vouloir interdire qu'à vouloir rassembler. Laissez les gens se retrouver entre eux.
J'entends.
Même si on n'est pas d'accord sur nos idées politiques, eh ben, en fait, c'est ce qui fait ce pays.
Mais Ali,
râleurs et c'est ce qui fait ce pays.
Non, mais Ali, ce que je soulignais, c'est que Emma Fourreau est allée fouiller dans un banquet pour décortiquer. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que la France insoumise est toujours en train de pister tout ce qui est
à droite
et français. Mais par contre, quand il faut aller fouiller dans les dérives de certains intégristes, eh ben elle y va pas. Voilà. Non, maintenant, Zora, je suis d'accord avec Zora, vous, Ali. On peut pas aller fouiller Zora, chaque personne dans quelque part.
Zora, si je peux me permettre, comme son nom le dit à Madame Fourreau, elle va fourrer son nez là où ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut qu'elle fourre son nez sur les choses qui améliorent mon quotidien.
Voilà.
Moi, je m'en fous des réunions d'un tel ou d'un tel. C'est pas ce qui remplit mon frigo, c'est pas ce qui paye mes factures. Je m'en fous. Aujourd'hui, le politique, il est plus dans « je veux interdire » plutôt que « je veux améliorer ». Et moi, ça me gonfle, tout simplement.
Ali, je vous remercie d'avoir été avec nous, Ali, du côté de la Loire. Et puis, on va aller retrouver Florent à Marseille. Bonjour, Florent.
Bonjour à tous.
Bienvenue, étudiant en médecine. Vous connaissez ces banquets? Vous y êtes déjà allé ou pas? Dites-moi.
Alors oui, moi j'ai déjà participé à un canon français. C'était le 28 février dernier au Salon de l'Agriculture, donc à Paris.
Ouais,
on est parti avec les amis le matin de Marseille. Et le soir, nous avions le canon français. Et ben, il y a aucun débordement comme qui est.
Qu'est-ce que vous venez y trouver dans ce type de soirée?
Oh ben faire un petit peu la fête, rencontrer des gens de tout horizon. Ben on a fait des rencontres avec des gens à côté de nous. Il y avait des Parisiens, de l'autre côté il y avait des Bretons. Donc, on s'est échangé nos contacts. On a fait la fête, on a bien mangé parce que
ça
la nourriture est très bonne. Ça chante, ça danse et aucun débordement. Comme pouvait le dire Madame la députée, à la fin de la soirée, donc ça s'est fini à minuit, on a tous pris le métro, il y avait les forces de l'ordre qui étaient dans la rue pour maintenir l'ordre au cas où il y avait un débordement, et aucun débordement, aucun salut nazi comme pouvait le dire Madame Fourreau, mais en fait plutôt les forces de l'ordre.
Et quand on vous dit que tout ça est financé par un milliardaire conservateur qui a lui un agenda politique et que donc sans savoir, vous êtes dans une démarche politique.
Ah mais ça c'est de la manipulation, c'est de la foutaise, c'est juste de l'instrumentalisation de ce banquet. Nous on est juste là pour faire la fête, pour faire un petit peu la fête comme dans le Sud-Ouest, comme un peu dans l'esprit rugby. C'est pas du tout quelque chose d'extrême droite. Hein. Il faut arrêter dans ce délire. Alors pourquoi pas interdire d'autres banquets qui seraient peut-être d'extrême gauche ou interdire la fête de l'humanité, je sais pas. Il y a beaucoup trop de gens qui n'ont pas les mêmes idées. En fait, c'est juste parce que ça leur déplaît que nous faisions la fête autour d'un banquet et de produits français. De toute façon, la France insoumise, il n'y a que le mot France insoumise qui a véritablement ça qui défend. Hein, c'est vraiment scandaleux et on se sent insulté de la part de ces députés. Quoi.
Alors, Florent, je vous remercie d'avoir été avec nous et c'est vous qui aurez conclu la discussion. Les banquets du canon français, est-ce que c'est franchouillard ou est-ce que c'est facho? On va voir ce que vous en pensez. J'ai pas tellement de doutes sur le résultat de la consultation. C'est franchouillard.
Oui, et on aime ça.
À 85%.
Plus de banquiers français.
On aime quand la France se fête.
Laissons les rêves aussi.
Mais on devrait s'y rendre pour le prochain.
Mais on devrait aller.
Oui, franchement.
Pourquoi on fait pas un canon GG?
Voilà, on va y penser.
Quand vous voulez, chez moi, ça arrive souvent. Hein.
Dans un instant, on va être du côté d'un quartier de Vénissieux. C'est le quartier Joliot-Curie à Vénissieux. Parce que il faut rétablir le service de la poste. Il est interrompu à cause de l'insécurité. Il y a une réunion aujourd'hui entre la municipalité, les services de la poste, les services de police. Vous connaissez ce quartier, vous venez en discuter avec nous au 32-16. Il est 11h25, vous êtes sur RMC, RMC Story.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Et Les GG, les grandes gueules sur RMC et RMC Story. Vous venez prendre la parole avec les grandes gueules, vous venez discuter, vous venez débattre. Zora Bitton est là, Maître Sandrine Pégan. Nous sommes avec Antoine Diers. On va s'intéresser à ce qui se passe du côté du quartier de Vénissieux. C'est intéressant, ça, c'est le quartier Joliot-Curie à Vénissieux. La municipalité est mobilisée maintenant parce qu'elle veut absolument que le service de distribution du courrier de la Poste revienne dans ce quartier.
Pourquoi ? Oui, parce qu'il y a depuis plusieurs jours des fusillades qui sont constatées sur place, en lien bien sûr avec le trafic de drogue. Sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo qui a circulé, où on voit des types en noir qui sont en train de viser avec des armes à feu une autre personne qui sort d'un immeuble. Nous sommes donc dans le quartier Joliot-Curie et suite à ces événements, la Poste a décidé de suspendre la distribution du courrier dans plusieurs rues du secteur pour protéger ses agents. Alors, bien sûr, les élus se mobilisent, etc. Ce climat délétère pour ce quartier de l'Est lyonnais n'est pas nouveau. Il inquiète. En fait, il inquiète quand c'est trop visible, en fait, j'ai l'impression. Et puis, là, il y aura sans doute des interventions, mais ensuite, les choses vont se calmer. Mais est-ce qu'on aura vraiment réglé le problème de Vénissieux, ces quartiers qui sont gangrénés par le trafic de drogue et donc la délinquance?
Sandrine?
Moi, je trouve quand même que ça devient très, très grave. Alors bon, j'enfonce des portes ouvertes quand je dis ça, mais ça veut dire qu'en fait, la République recule. C'est-à-dire que donc, on n'est plus capable de pouvoir imposer une sécurité, une autorité dans ces quartiers-là. Et donc, qui en pâtit encore? Qui subit? Eh ben, les habitants, les Français. Donc, on leur dit, vous pourrez venir à la Poste que 2 heures, mais il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer. Donc, où j'entends bien qu'il faut protéger les agents. C'est vraiment pas là le problème. Mais encore une fois, c'est les habitants qui trinquent. Et encore une fois, c'est aussi la République qui recule parce que derrière, on n'est pas capable de pouvoir protéger.
C'est le service public.
Mais, oui,
et donc. Service public.
Mais on a vu dans certains quartiers des écoles carrément fermées.
Ouais, bien sûr.
Parce qu'il y avait des points de deal devant et que c'était
et
plus
possible.
Rappelez-vous
ce qui s'est passé à Marseille avec le site Orange, où justement carrément les salariés avaient
été interdits. Des écoles, des postes, c'est pareil.
Il y a des endroits complets, des quartiers complets où l'ordre public n'est plus assuré. Alors, pendant que pour certains, ce sont les banquiers de bons vivants qui font peser un danger sur la République, pendant que ce sont les chasseurs et les tireurs sportifs avec leurs armes qui sont très dangereux, il y a de la racaille à Kalach, il y a des armes dans nos HLM, cachées dans les caves, qu'on ne va pas chercher. Et en réalité, moi ça va, je suis encore dans un quartier tranquille à Dunkerque. En réalité, ce sont les propres habitants de ces quartiers qui subissent ça en premier. Ouais. Et donc, la République, ce grand mot que la gauche aime tant, la République abandonne les gens de ces quartiers. Hein, qui voit le service public disparaître.
C'est pas la gauche au pouvoir, hein.
Emmanuel Macron, il est pas franchement de droite pour moi.
C'est Sébastien Lecornu, le ministre de l'Intérieur, c'est Laurent Nunez.
Je vais te dire,
gens qui essayent de faire preuve de fermeté dans leur discours.
J'étais directeur de cabinet à Villejuif il y a quelques années et des jeunes ont incendié le poste de police municipale. On a passé quelques coups de fil, etc. On a eu tout de suite un soutien massif de l'État à l'époque, avec des camions de CRS qui sont arrivés. Ils ont fouillé tout de suite les caves, ils ont récupéré des dizaines d'armes, etc. Et la population applaudissait. Les gens de ces quartiers veulent voir arriver les CRS, veulent qu'on vide les caves, qu'on traque les délinquants. Mais le blocage, il est où? Le blocage, il est chez nos élus. C'est un blocage mental, largement issu des idées de gauche. Où, non, Antoine, on peut pas faire ça. On peut pas débarquer et fouiller toutes les caves pour prendre les armes. Moi, je pense que si. Et ce serait grand service aux habitants de ces quartiers.
On s'adapte à l'insécurité. C'est horrible.
On n'est pas arrivé au narcotrafic de cette ampleur-là par hasard. La paix sociale qui a été volontairement achetée par les différents gouvernements successifs en fermant les yeux, elle s'est installée depuis plus de 40 ans. La drogue dans les cités, elle a commencé il y a bien longtemps. Moi, j'ai connu ça de très près, je sais de quoi je parle. On a fait mine de rien voir, et puis on a fait des politiques de pansement. On a fait le RSA, les Restos du Cœur, la drogue, on ferme les yeux.
La politique de la ville.
Et tout ça progresse. Et aujourd'hui, on en est à un narcotrafic qui tue. qui fait sortir les calaches entre celui-là, l'islamisme et tout le reste, et tout ce que ça finance de terrorisme de toutes parts, on fait mine de découvrir. Et là, c'est pareil, on a affaire à l'Himalaya, quoi. On a tellement laissé les choses s'amplifier quand en 2001 sortent les territoires perdus de la République, la France entière, la caste qui gouverne et qui dirige et qui fait la pluie, et le beau temps, dit, il y a une bande de nazis qui vient d'écrire un bouquin. Ferme les yeux. On a fermé les yeux pendant des années. On ne punit plus. La justification sociale a été la norme.
La lutte contre le narcotrafiquant est plutôt un échec, parce qu'on n'y arrive pas. On n'arrive pas à enrayer
cette vague.
Il y a quand même une volonté quand même d'agir. Gérald Darmanin, il est assez volontariste dans ce domaine.
C'est trop, ça vient de loin.
Mais ça suffit pas. Il faut des actes derrière. Il faut des brigades.
Est-ce qu'il y a un pays au monde qui a vraiment, un pays démocratique, qui nous ressemble.
Oui, la Colombie a évolué.
Lutte contre les gangs, même la police de New York dans les années 80 fait un gros effort sur la lutte contre les gangs, etc. Il y a des méthodes, il faut juste les assumer. Et elles sont démocratiques.
Non, mais nous, c'est quoi,
lutter contre le trafic, lutter contre les délinquants, c'est pas antidémocratique.
La cocaïne n'a jamais été aussi important, la consommation de cocaïne aux États-Unis.
Moi, je pense qu'il faut interroger.
Dans les rues de New York, à chaque bloc, tu
non, mais c'est reperdu. Je te parle de.
Mais non, ce qui veut dire,
c'est New York, mais c'est pas la drogue en fait des ravages aux États-Unis.
La France, c'est le pays le plus consommateur d'Europe.
Attendez, vous me disiez, on peut pas lutter contre les gangs et le narcotrafic. Si, on a des exemples, y compris des exemples démocratiques. Il s'agit de s'en donner les moyens. Les moyens, ça passe également par une reprise en main de la justice, on le dit souvent ici, le délinquant va être arrêté et va être fort peu sanctionné.
Répondez à cette attaque sans précédent.
Là, par exemple, il y a eu le gros procès de la DZ Mafia, je ne sais pas si tu as entendu parler. Oui. Bon, ils ont tous été condamnés. Oui. Bon, il y a juste eu un acquittement, mais parce que véritablement le dossier était creux à son égard. Mais tout le reste, c'est des peines qui vont être extrêmement lourdes.
Oui, donc, en prison,
c'est l'exemple.
Oui, alors c'est pas parce que tu es en prison que derrière, tu peux très bien aussi être acquitté et donc sortir et demander une indemnité.
C'est intéressant ce que tu cites le procès de la DZ Mafia, parce que ce qui était effarant, c'était leur comportement aux prévenus. Ils avaient l'impression d'être les accusés.
Je te reprends, je suis obligé.
Pardon, bien sûr, tu as raison. Mais la façon dont on avait l'impression que c'était les caïds, comme dans leur prison, c'est-à-dire que c'était eux les patrons.
La façon dont
ils parlaient aux magistrats, à tout le monde, ils avaient peur de rien. Et je me suis dit, mais finalement, le rapport de force est en leur faveur. Alors, bien sûr, qu'ils sont condamnés.
Ils continuent leur activité en prison.
C'est ce qu'on leur a reproché.
Et du coup, qu'est-ce qu'il fait Darmanin? Tu disais qu'il était volontariste. Qu'est-ce qu'il fait? Il crée des prisons où ils les parquent tous ensemble. Et puis finalement, t'as le trafic qui continue. Donc, tu me donnes raison.
C'est-à-dire qu'on a l'impression que le combat est perdu.
Oui, mais moi, c'était pas par rapport à ça.
Ils continuent à commanditer des meurtres.
Parce qu'ils ont des téléphones. Ils ont des téléphones dans nos prisons. Allô, pardon. Ils sont.
Oui, mais s'il y a trafic.
Avec l'argent, ils peuvent obtenir ce qu'ils veulent en prison.
Antoine, s'il y a trafic, on n'oublie pas une chose, c'est qu'il y a consommation. Donc, s'il y a consommation, forcément derrière, c'est une manne pour eux.
Je pénalise le consommateur.
Il est déjà pénalisé, mais est-ce que ça a changé quoi que ce soit?
Mais non, pardon. L'amende forfaitaire délictuelle, elle est recouvrée à 10 ou 20%. C'est-à-dire qu'on a créé une amende dissuasive.
D'accord.
Qui déjà est très faible et qu'on ne recouvre pas.
Tu veux mettre en prison les consommateurs?
Mais pourquoi pas?
Mais non, mais arrête,
consommateur que dédié à quoi?
Pour revenir au point de départ de notre discussion, parce qu'Antoine a dit, si on ne s'en donne pas les moyens. Je sais que dans ces cas-là, tu as en tête la méthode Bukele au Salvador. Est-ce que la méthode Bukele est applicable en France?
Elle est démocratique.
C'est-à-dire, tu rentres dans un quartier et tu interpelles tout le monde et tu fais le tri. Ensuite,
une police anti-gang. On a affaire à des gangs. Il faut une police anti-gang. Et moi, je pense que la France n'est pas encore prête. On n'est pas encore tombé assez bas. Et on aura toujours des gens pour nous dire, ah non, c'est pas démocratique. Ah non, pas en France. Enfin, ça n'est pas applicable chez nous. Ben si, il y a des endroits où la République n'arrive plus à maintenir leur plan.
Typiquement, Vénitieux, tu as, dans le quartier Joliot-Curie, tu appliquerais la méthode Bukele.
Évidemment.
On peut commencer par des choses simples. À partir du moment où les gens sont incarcérés. Pour trafic de drogue, déjà la condition de détention de ces gens qui ont accès à l'extérieur, qui organisent de l'intérieur à la fois les trafics de drogue et qui continuent à commettre des actes de délinquance avec des personnes intermédiaires,
Parce qu'il y a rien que quand tu punis
de manière ferme et rigoureuse et que le type, quand il sort au bout de 7, 8, 10 ans, il n'a pas eu de téléphone, il n'a pas eu accès à l'extérieur, il n'a pas pu continuer à créer des liens, etc. Tu les as quand même un peu refroidis. Ouais. Là, les mecs, ils arrivent
là-dedans. Sauf que Zora, n'oublie pas une chose, c'est que en prison si tu n'organises pas la paix sociale, si tu dis mais il faut interdire le téléphone, non, il faut interdire les lions, mais les liens familiaux, etc. Ils vont péter un câble. Non, donc après, du coup, ils vont se dire pourquoi moi je vais continuer à respecter le règlement interne de l'administration pénitentiaire si derrière on me donne pas un petit peu. Mais non, parce que tu dois un peu leur donner la carotte, exactement, pour que derrière.
C'est de la lâcheté, il faut organiser la détention. La détention, elle s'organise comment ? T'as un règlement, t'es puni parce que t'as commis un acte de délinquance, et dedans, qu'est-ce que tu fais ? Tu te resocialises, tu travailles.
Mais où tu veux travailler où ?
Je vais répondre à Yann Rhône.
Si tu savais les ateliers, tu gagnes 3 francs 6 sous, alors, que dalle.
Zora, Sandrine, on va dans le Rhône, justement, et c'est Nicolas, fidèle des GG, le sapeur-pompier du Rhône qui est avec nous. Bonjour Nicolas.
Ouais, salut les GG.
Tu connais ce quartier ?
Ah oui, bah oui, on y est presque quotidiennement dans ce quartier. Ça nous fait partie de notre secteur d'intervention. Donc,
et alors ?
Oui, on y est très souvent. Donc ça m'étonne pas trop. Mais là, on cible ce quartier en particulier. Moi, je pense qu'il y a plein d'autres quartiers qui vivent un petit peu dans la même situation. Là, on est sur des tirs, donc on est sur quelque chose qui est un petit peu plus exceptionnel que d'habitude. Mais les tensions, elles sont présentes tous les jours. Mais donc oui. Là, ça m'étonne pas. Les facteurs, ils se retrouvent tout seuls dans ces situations. Mais il faut penser aussi qu'il y a d'autres personnes dans ce cas. Il y a les ascensoristes, il y a les agents GRDF, Enedis, les infirmiers,
les médecins.
Voilà. Mmh. Donc moi, je pense que là, quand on arrive à un niveau, effectivement, où on a des tirs, bon là, ça paraît compliqué. Mais je pense que toutes les situations du quotidien qui polluent, d'ailleurs... toutes les personnes qui habitent sur place, hein, parce qu'on les entend, on interne, les gens, ils nous parlent, ils nous confient, hein, et on sent bien qu'ils sont emmerdés de cette situation.
Mais toi-même, tu as été témoin de ces tirs ou de ces points où il est compliqué de passer ou pas ?
D'où ces caillassins ?
Oui, en général, nous, on arrive après. On arrive après les tirs. Mais malheureusement, effectivement,
donc, quand tout le monde a fui.
C'est ça. Mais effectivement, c'est des situations compliquées et leur travail doit vraiment pas être simple tous les jours.
Comment vit la population ?
La population sur place, il y en a certains qui sont terrifiés, il y en a certains qui se complaisent, il y en a certains qui sont complètement bloqués parce que voilà, ils peuvent plus rien faire, ils osent rien dire. Hein. On discute avec des personnes des fois, rien que pour une voiture qui est mal garée, tout ça, nous on n'arrive plus à accéder. Et les gens, on sent bien que ça les qui sont remontés comme tout, mais en fait ils osent rien dire, ils nous le disent. Hein, on ne peut plus rien leur dire.
Parce qu'ils font régner, la terreur, quoi. Il faut régner la peur en plus.
C'est carrément la punition des innocents, c'est-à-dire que depuis des décennies, des populations sont totalement abandonnées parce que certains ont considéré que la sécurité, pour eux, c'était pas important. Or, la sécurité, quand on est dans les milieux populaires et dans ces endroits, elle est primordiale, elle est capitale, elle protège. C'est même une marque de respect pour ces gens.
Mais ça fait partie des besoins primaires.
Mais bien sûr.
C'est les besoins primaires de l'humanité. Le besoin de sécurité dans la pyramide de Maslow, c'est un des premiers besoins. Et le problème, c'est que je pense que pendant 40 ans, on a allié sécurité avec fascisme, vous voyez ce que je veux dire. Et le problème, c'est qu'on a mélangé deux choses. La sécurité, ça fait partie des besoins primaires.
Surtout que l'insécurité touche avant les pauvres.
Mais oui, elle touche les pauvres, l'insécurité.
Allez, vas-y, Nicolas.
Moi, je reviens d'un voyage à Londres. Je suis rentré hier. Je me suis jamais senti en insécurité dans Londres. Jamais. Et pourtant, j'ai croisé... des gens de toutes les communautés.
Oui, parce que c'est une ville de riches aussi, Londres.
Peut-être, mais je me suis jamais...
À Paris, ville de riches, et pourtant...
Et à Lyon, je peux vous garantir qu'il y a quelquefois, même dans des quartiers de centre-ville, on se sent pas tant en sécurité. Alors que pourtant, je veux dire, enfin...
Il y en a qui pensent à désarmer la police municipale, hein, parce que ça y est.
C'est contradictoire. Voilà. C'est complètement contradictoire. Moi, je pense, par contre, qu'il faut former les personnes. Et voyez, c'est pour ça, moi, que je vous avais présenté un coup ce que j'avais monté, ma structure que j'avais montée pour de la formation, parce que je n'avais pas les réponses de mon côté suffisantes pour pouvoir gérer ces situations où on se retrouve parfois seul à devoir gérer du conflit. Et c'est pour ça que je me suis formé et j'ai monté ma structure, parce que je pense que la première des choses, c'est se former pour déjà anticiper.
Merci Nicolas, merci de nous avoir fait partager ton expérience une fois de plus, Nicolas, qui est sapeur-pompier du côté du Rhône. Suite des GG dans un instant, ce sera la troisième heure des Grandes Gueules. On a encore des sujets de discussion avec vous au 32-16 sur lesquels vous allez pouvoir faire part de votre opinion. La fessée, 36% des parents la trouvent encore normale, choquant ou pas. La gare de Lyon, la gare de Lyon, le week-end du 1er juin, va être complètement fermée et ça va être dévié vers les autres gares françaises, enfin les autres gares franciliennes, les autres gares parisiennes. Donc il faut quand même le faire, de fermer ça, de fermer la gare de Lyon le week-end du 1er mai. Et puis dans un instant, nous serons avec un de tes confrères, Sandrine Pélan, c'est maître Olivier Pardot. Il est avocat de la famille de Sarah Halimi. Vous savez, Sarah Halimi, cette femme qui a été défenestrée. Et on a conclu qu'il y avait une bouffée délirante de la part de son agresseur. Maître Olivier Pardot dit avoir de nouveaux éléments et il veut donc un nouveau procès et il va venir s'expliquer.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.